parole du jour avec le Père Willem.
La traversée de la mer comme passage vers la vie. S'il est un épisode biblique connu de tous, c'est bien celui-là. Le franchissement de la mer par le peuple hébreu, poursuivi par les chars de Pharaon. Beaucoup d'entre nous gardent au fond de leur rétine la fantastique fresque cinématographique de Cécile de Mille vers, il y a déjà quelques années, les 10 commandements, où nous admirions, ébahis, la mer se fondre par l'intercession de Moïse, laissant passer à pied sec le peuple juif fuyant sa condition d'esclave avant que les eaux ne se referment sur les troupes de Pharaon lancées à sa poursuite. L'épisode est aussi merveilleux que central dans l'histoire du judaïsme. Et finalement aussi célèbre que méconnu dans la signification qu'il revêt pour nous, pour chacun de nous aujourd'hui, que l'on soit croyant ou non. C'est toute la question de ce qu'est la vie, du sens qu'elle peut avoir qui nous est ici révélé dans le creuset de notre être. Comme tout un chacun, les Hébreux sont empreints de contradictions, d'envie et de peur. Ils se sont enfuis d'Égypte pour rompre avec leur servitude, mais les voici rattrapés par l'armée égyptienne alors qu'ils sont face à la mer, qui dans l'Ancien Testament représente un monde de dépérissement par engloutissement et donc par anéantissement total. C'est le reste du chaos primitif. Face à cette situation, les fuyards regrettent d'avoir quitté l'Égypte. Certes, ils y étaient esclaves, mais ils y vivaient là en sécurité. Que celle-ci est douce comparée à une liberté qui débouche sur une impasse. Que le chemin de libération est long. Combien de fois ne regarde-t-on pas en arrière pour regretter le passé, un passé emprisonnant? Par là même, le livre de l'Exode veut nous montrer que les fils d'Israël sont sortis de l'espace géographique, mais non de la servitude. Dans ce contexte où tout semble irrémédiablement fermé, Dieu ouvre à l'inattendu, en séparant les eaux comme il l'avait fait lors de la création, Dieu fait apparaître un espace de vie, ici un chemin de vie. Dans la mer, qui est un espace sans chemin, le lieu où l'on se perd et où l'on erre par excellence, Dieu, en frayant pour son peuple au milieu des eaux une route sur laquelle il ne peut se perdre, pose véritablement un acte créateur qui rappelle la Genèse. Dieu met à nouveau de l'ordre par séparation de ce qui est confus, informe, en traçant un chemin dans le lieu du chaos, en l'ordonnant pour y indiquer une direction. De ce point de vue, le passage de la mer est comme une recréation dans laquelle les Israélites trouvent la vie, d'où l'attachement du peuple juif à cet épisode qui constitue véritablement la naissance d'Israël. Comme il avait arraché le monde à la masse des eaux, Dieu arrache maintenant son peuple aux eaux destructrices, symbole de mort. Aux récriminations, plaintes et gémissements du peuple qui ne parle que du passé. Encore faut-il accepter que Dieu réponde en nous incitant à aller de l'avant et à nous tourner vers l'avenir. Encore faut-il s'ouvrir suffisamment à la confiance. Ne craignez pas, martèle Moïse en invitant le peuple à pénétrer sur ce chemin au milieu des flots. C'est dans la réalité concrète que s'exprime et se manifeste la confiance en quoi elle est chemin de libération. En avançant dans la mer, les Hébreux risquent leur vie en faisant confiance à Dieu qui seul détient un pouvoir sur la mer. La véritable foi d'Israël, comme le souligne l'exégète André Vénin, c'est donc de nier la mer comme terme du chemin, c'est de nier la mort comme terme de la vie. C'est croire en acte que le Seigneur est capable de donner vie au cœur même de la mort et du chaos à ceux qui osent s'y avancer en toute confiance. Le texte du livre de l'Exode va même plus loin en montrant que le Dieu de la vie a le pouvoir de mettre à mort la mort. La fin du récit est de ce point de vue assez explicite. Israël vit l'Égypte morte sur le bord de la mer. Une puissance de mort, la mer, a détruit l'autre, les chars de Pharaon. Si l'on songe, écrit encore André Vénin, que le bord de la mer est l'endroit où vient mourir la mer, puisque s'y évanouit sa puissance de mort, on pourrait paraphraser le verset 30b, et Israël vit l'Égypte morte sur le bord de la mer, comme ceci, Israël vit la mort morte là où meurt la mort. Ce cheminement maritime peut aussi révéler la nécessité de traverser, de s'ouvrir pour exister, de vivre et de s'épanouir pleinement. Il manifeste clairement que pour vivre, il importe de naître à nouveau et donc de mourir à ce que nous étions. Ce dont témoigne également dans l'évangile de Jean, l'entretien avec Nicodème dans Jean chapitre 3. La traversée qui fait passer Israël du lieu fermé qu'est l'Égypte au lieu ouvert de sa liberté, cette traversée se fait par un couloir resserré et humide, goulot critique où nous passons la peur au ventre. Mais avec confiance qui vainc la peur, on peut difficilement évoquer de manière plus réaliste le scénario d'une naissance. Mourir de ses peurs pour vivre dans la confiance, oser sortir de ses enfermements et des liens du passé pour accueillir au quotidien l'inattendu, vivre au quotidien l'inattendu de Dieu, savoir nous être des vivants. Mais savons-nous être des veilleurs d'inattendu dans nos vies? Arrivons-nous à dégager suffisamment de temps et à lever les yeux pour tout simplement le voir? La vie est mouvement, évolution, transformation, une traversée dans laquelle il ne faut pas craindre d'abandonner tout ce qui est trop lourd, tous ces joues et ces fardeaux qui nous empêchent d'avancer. Se cramponner à l'enfermement, à la situation d'antan, au temps heureux ou fusionnel avec la mère, diront les psychanalystes, ne conduit nulle part et devient au contraire un non-sens, un refus de son individuation, de son existence propre et autonome, marque un désir fou. Oui, un désir fou de rester dans un néant indifférencié, de ne pas exister en un mot, ce qui est l'opposé de la vie. Comme l'écrit justement le cher Paul Beauchamp, la vraie mort n'est pas le terme de la vie, elle est ce qui, dès le début, empêche de naître.